L'un des aspects du Sénat qui me passionnait était la possibilité de peser sur la politique étrangère, ce que la législature d'État ne permettait pas. Depuis l'université, je m'intéressais en particulier aux questions nucléaires. Avant même de prêter serment, j'avais donc écrit à Dick Lugar, président de la Commission des Affaires étrangères, dont le cheval de bataille était la non-prolifération nucléaire, afin de lui faire savoir que j'étais désireux de travailler avec lui. Dick avait réagi avec enthousiasme. Élu républicain de l'Indiana et vétéran du Sénat où il siégeait depuis 28 ans, il était d'un conservatisme irréprochable sur les questions de politique intérieure, telles que les impôts et l'avortement, mais son positionnement en matière de politique étrangère reflétait la prudence et l'internationalisme qui guidaient depuis longtemps les républicains modérés comme George H. W. Bush. En 1991, peu après l'effondrement de l'Union soviétique, Dick s'était allié au démocrate Sam Nunn pour rédiger et faire voter un projet de loi permettant aux États-Unis d'aider la Russie et les anciens États soviétiques à sécuriser et neutraliser leurs armes de destruction massive. La loi Nunn-Lugar, comme on l'appellerait par la suite, était une initiative audacieuse dont le succès se révélerait durable. Plus de 7500 ogives nucléaires seraient désactivées au cours des deux décennies suivantes, et dont la mise en œuvre aiderait à faciliter les relations entre les conseils de sécurité nationale américains et russes, élément crucial pour mener à bien une transition délicate. Mais nous étions à présent en 2005, et des rapports de renseignement indiquaient que des groupes extrémistes comme Al-Qaïda profitaient de certaines failles de sécurité pour écumer les avant-postes militaires de l'ancien bloc soviétique à la recherche de matériaux nucléaires, chimiques et biologiques. Dick et moi avons commencé à discuter de la possibilité d'élargir la loi Nunn-Lugar afin de renforcer notre protection contre de telles menaces. C'est ainsi qu'au mois d'août de cette même année, je suis monté avec Dick à bord d'un avion militaire pour une tournée d'une semaine en Russie, en Ukraine et en Azerbaïdjan. Si ce genre de périple était devenu routinier pour Dick dans le cadre du suivi de la loi Nunn-Lugar, pour ma part, c'était mon tout premier voyage officiel à l'étranger, et l'on m'avait rapporté plusieurs anecdotes au fil des années sur ses déplacements parlementaires aux frais de la princesse, les horaires de travail tout sauf exténuants, les dîners somptueux et les séances de shopping. Mais si c'était bien ainsi qu'était censée se dérouler notre petite expédition, l'info n'était manifestement pas remontée jusqu'à Dick. Malgré ses 70 ans bien sonnés, il nous a imposé une cadence infernale. Après une journée entière de réunions avec des représentants officiels des autorités russes, nous nous sommes rendus en avion à Saratov, à 2 heures de Moscou, puis de là sur un site nucléaire secret à 1 heure de route, où l'aide financière américaine avait permis de renforcer la sécurité du stockage de missiles russes. Nous avons aussi eu droit, en guise de festin d'accueil, à un bortsch accompagné d'une espèce de poisson en gelée que Dick a dévoré de bon cœur, tandis que je l'étalais dans mon assiette comme un gamin de 6 ans. Dans les environs de Perm, au cœur de l'Oural, nous avons déambulé dans un cimetière de missiles SS-24 et SS-25, dernier vestige d'une armada d'ogives nucléaires tactiques autrefois destinée à l'Europe. À Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, nous avons visité des hangars dans lesquels des armes conventionnelles récupérées aux quatre coins du pays, munitions, explosifs militaires, missiles air-sol et même de minuscules bombes dissimulées dans des jouets pour enfants, avaient été entreposées en attendant d'être détruites. À Kiev, nos hôtes nous ont emmenés voir un complexe de 3 étages en centre-ville, décrépit et laissé à l'abandon sans surveillance, où la loi Nunn-Lugar finançait l'installation de nouveaux systèmes de stockage pour des échantillons biologiques datant de la guerre froide, notamment des souches d'anthrax et de peste bubonique. C'était un spectacle édifiant, tous ces témoignages de la capacité des hommes à mettre leur ingéniosité au service de la folie. Mais pour moi, qui m'étais concentré pendant si longtemps sur des questions de politique intérieure, ce voyage avait également quelque chose de revigorant. Il me rappelait à quel point le monde était vaste et combien les décisions prises à Washington pouvaient peser sur le sort de la planète. Observer Dick à la manœuvre allait me laisser une impression durable. Un sourire placide affiché en permanence sur son visage espiègle, il ne se lassait jamais de répondre à mes questions. J'étais frappé par l'attention, la précision et l'expertise dont il faisait preuve chaque fois qu'il prenait la parole lors de nos réunions avec des dirigeants étrangers. Je le regardais endurer sans ciller non seulement les retards de vol, mais aussi les anecdotes interminables et les shots de vodka à midi. Il savait que la courtoisie la plus élémentaire était un langage qui franchissait toutes les barrières culturelles et qui pouvait avoir une incidence réelle sur la promotion des intérêts américains à l'étranger. Pour moi, c'était une précieuse leçon de diplomatie, un exemple de l'impact concret que pouvait avoir un sénateur. Puis une tempête a éclaté et tout a changé. Au cours de la semaine où je voyageais avec Dick, une perturbation tropicale qui s'était formée dans les Bahamas avait traversé la Floride pour se fixer au-dessus du golfe du Mexique, gagnant en intensité sous l'effet de la chaleur des eaux et menaçant à présent les côtes du sud des États-Unis. Quand notre délégation sénatoriale a atterri à Londres pour une rencontre avec le Premier ministre Tony Blair, un désastre d'une ampleur et d'une violence cataclysmique s'était abattu sur la région. Frappant les côtes avec des vents de 200 km à l'heure, l'ouragan Katrina avait ravagé des communautés entières le long de la côte du Golfe, fait céder des barrages et noyé une bonne partie de la Nouvelle-Orléans sous les eaux. J'ai passé la moitié de la nuit à suivre le déroulé des événements à la télévision, sidéré par le cauchemar boueux et sauvage qui envahissait l'écran. On voyait des cadavres qui flottaient, des personnes âgées prises au piège dans les hôpitaux, des fusillades et des pillages, des réfugiés blottis les uns contre les autres au bord du désespoir. Le spectacle d'une telle souffrance était insoutenable. La lenteur de la réaction du gouvernement face à la vulnérabilité de tant de nos concitoyens parmi les plus pauvres m'a fait honte. Quelques jours plus tard, je me suis rendu à Houston en compagnie de George H.W. et Barbara Bush, ainsi que de Bill et Hillary Clinton. Des milliers de personnes chassées de chez elles par l'ouragan avaient été évacuées en bus dans des refuges installés en urgence dans l'immense complexe sportif de l'Astrodome. Avec l'aide de la Croix-Rouge et de la FIMA, l'agence fédérale en charge de la gestion des catastrophes, les services de la ville avaient travaillé sans relâche pour parer aux premières nécessités. Mais j'ai songé soudain, en passant entre les lits de camp, que bon nombre des gens qui se trouvaient ici et dont la plupart étaient noirs avaient été livrés à eux-mêmes bien avant l'ouragan, forcés de survivre aux marges de la société, sans revenus ni assurance. Je les écoutais parler de leurs maisons englouties par les flots et de leurs proches portés disparus, de l'impossibilité dans laquelle ils s'étaient retrouvés de fuir parce qu'ils n'avaient pas de voiture ou parce qu'ils avaient dû rester avec un parent malade qui ne pouvait pas se déplacer. Tous ces gens qui n'étaient en rien différents de ceux auprès de qui j'avais travaillé dans le milieu associatif de Chicago ou de certains des cousins ou des tantes de Michel. Il m'apparaissait que si ma situation personnelle avait changé, ce n'était pas le cas pour eux, ni pour le pays dans son ensemble d'un point de vue politique. Il restait partout des hommes et des femmes laissés pour compte, des voix ignorées, négligées par des pouvoirs publics qui semblaient souvent aveugles ou indifférents à leurs besoins. Je vivais leur malheur comme un véritable camouflet, et en tant qu'unique représentant de la communauté afro-américaine au Sénat, j'ai décidé qu'il était temps de mettre un terme au moratoire que je m'étais imposé sur la scène médiatique nationale. J'ai fait le tour des émissions politiques des chaînes d'information, affirmant que si la réaction calamiteuse du gouvernement face à une telle catastrophe n'était pas due selon moi au racisme, elle en disait long néanmoins sur l'inertie dont avait fait preuve le parti au pouvoir et les États-Unis dans leur ensemble, face aux problèmes d'isolement, de pauvreté intergénérationnelle et d'inégalité des chances qui continuaient de sévir dans de nombreuses couches de la population de ce pays. De retour à Washington, j'ai travaillé avec mes collègues à l'élaboration de plans d'aide à la reconstruction de la région autour du golfe du Mexique dans le cadre de la commission de surveillance du département de la sécurité intérieure. Combien d'années devrais-je passer sur les bancs du Sénat pour améliorer de manière concrète la vie des gens que j'avais rencontrés à Houston? Par combien d'audiences, d'amendements avortés et de clauses budgétaires négociées de haute lutte avec un président de commission récalcitrant faudrait-il en passer pour contrebalancer les actions hasardeuses d'un directeur de la FIMA, d'un fonctionnaire de l'Agence pour la protection de l'environnement ou d'un cadre subalterne du département du travail? Le sentiment de frustration qui me taraudait s'est aggravé quelques mois plus tard, lorsque je me suis joint à une petite délégation de représentants du Congrès envoyée en Irak. Près de 3 ans après l'invasion menée par les États-Unis, le gouvernement ne pouvait plus nier l'ampleur du désastre auquel avait conduit la guerre. En démembrant l'armée irakienne et en permettant à la majorité chiite d'exclure de manière violente un grand nombre de musulmans sunnites des instances gouvernementales, les responsables américains avaient ouvert la voie à une situation chaotique et de plus en plus périlleuse. Un conflit sectaire sanglant, marqué par des attentats suicides, des explosions sur le bord des routes et des attentats à la voiture piégée sur des marchés bondés. Notre délégation s'est rendue sur des bases militaires américaines à Bagdad, Fallujah et Kirkuk. Vu des hélicoptères Black Hawk qui nous transportaient d'un lieu à l'autre, le pays tout entier avait l'air dévasté, les villes ravagées par les tirs de mortier, les routes figées dans un silence inquiétant, le paysage noyé sous la poussière. À chacune de nos étapes, nous rencontrions des officiers et des soldats intelligents, courageux, convaincu qu'avec le soutien militaire, la formation technique et l'apport de renforts adéquats, l'Irak pourrait sortir un jour de l'ornière. Mais les discussions que j'ai pu avoir avec les journalistes sur place et une poignée de hauts responsables irakiens m'ont fait entendre un tout autre son de cloche. Une boîte de Pandore avait été ouverte, me disait-il, et la vague d'assassinats et de représailles entre les communautés sunnites et chiites rendait toute perspective de réconciliation inenvisageable dans un futur proche, sinon tout bonnement inatteignable. Si le pays tenait encore debout, c'était uniquement grâce à la présence des jeunes soldats de l'armée et du corps des Marines que nous avions déployés et qui pour la plupart sortaient à peine du lycée. On dénombrait déjà plus de 2000 victimes parmi eux et plusieurs milliers d'autres blessés. Il semblait évident que plus la guerre se prolongerait, plus nos troupes seraient prises pour cible par un ennemi qu'elles n'étaient souvent pas en mesure d'identifier ni de comprendre. Dans l'avion qui me ramenait aux États-Unis, je ne pouvais m'empêcher de repenser à tous ces enfants, victimes de l'arrogance d'hommes tels que le vice-président Dick Cheney et le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, qui nous avaient précipités dans la guerre sur la foi d'informations fautives et qui refusaient toujours de regarder en face les conséquences de leurs décisions. Que plus de la moitié de mes collègues démocrates aient approuvé ce fiasco m'inspirait une inquiétude d'une toute autre nature. Je commençais à me demander ce qui risquait de m'arriver si je restais trop longtemps à Washington, si je finissais par y prendre mes marques et mes aises. Je voyais bien désormais ce qui pouvait se passer. La politique des petits pas et le respect du protocole, les prises de position dictées en permanence par l'horizon de la prochaine élection et la pensée unique relayée sur les plateaux des chaînes d'information, tout cela contribuait à saper vos instincts les plus nobles et à entamer peu à peu votre indépendance, jusqu'au jour où vous finissiez par complètement perdre de vue ce en quoi vous aviez toujours cru. Si j'avais pu être tenté de me laisser aller à la satisfaction, de penser que j'étais au bon endroit pour prendre les bonnes décisions selon un calendrier raisonnable, Katrina et ma visite en Irak ont donné un coup d'arrêt brutal à ces élans optimistes. Le changement devait intervenir plus vite, et j'allais devoir décider du rôle que je voulais jouer pour y contribuer.